Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro pour cette édition d'Escale consacrée aux droits de l'homme dans les opérations de paix en République démocratique du Congo. La plupart des opérations multidimensionnelles de paix de l'ONU intègrent une équipe spécialisée en droits de l'homme. Elles sont notamment chargées d'intégrer les droits de l'homme dans les opérations qu'elles effectuent. C'est le cas du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Créé en 2008, cette composante droits de l'homme travaille de façon conjointe avec le personnel militaire, la composante police et les civils dans la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, la mission de paix de l'ONU en RDC. Pour mieux comprendre la centralité des droits de l'homme aux opérations de paix, nous avons reçu dans nos studios le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC, Abdulaziz Choy, qui est venu exposer la question devant le Conseil de sécurité.
Alors, il s'agissait de donner des exemples concrets de travail conjoint, c'est-à-dire de montrer comment les composantes de droits de l'homme contribuent au mandat de protection des civils, mais également au mandat de soutien au processus politique ou au mandat de renforcement des institutions nationales. En ce qui concerne la RDC, la dernière résolution qui a été votée a identifié deux priorités. C'est la protection des civils et la stabilisation, mais également le renforcement des institutions nationales. Donc il était important d'expliquer de façon claire comment est-ce que nous opérationnalisons le mandat. Quelle est la contribution à la protection des civils? Comment est-ce que nous travaillons avec les autres composantes à la protection des civils contre les menaces sur leur intégrité physique? Comment est-ce que nous soutenons le processus politique? Comment est-ce que nous travaillons à créer un environnement protecteur?
Alors justement, vous avez donné quelques exemples. Est-ce que vous pouvez les partager pour illustrer comment vous menez à bien ces contributions conjointes?
Alors, dans le cadre de la protection des civils, la MONUSCO a un mandat très très fort de neutralisation des groupes armés. Elle peut le faire de façon unilatérale ou conjointement avec les forces de sécurité et défense nationale. Si l'option est de le faire conjointement avec les forces de sécurité et de défense nationale, cela doit se faire en parfaite conformité avec ce qu'on appelle la politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme. C'est-à-dire s'assurer effectivement que quand vous donnez un soutien à des forces non Nations Unies, vous assurez effectivement que le soutien qui est donné n'implique pas des violations des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un risque qui est associé à la fourniture du soutien. Donc pour la mise en œuvre de cette politique de diligence voulue, qui est une politique Nations Unies, ce sont les composantes de droits de l'homme qui gèrent la politique de conformité, c'est-à-dire l'analyse des risques est faite évidemment avec la participation des entités qui demandent, dans, ça peut être la force, ça peut être la police, mais aussi les équipes qui sont sur le terrain, dans la zone où le soutien doit être donné. Dans le cadre de la RDC, de plus en plus, ça peut être le chef de bureau de terrain qui participe un peu à l'analyse de situation pour identifier les potentiels risques. L'idée n'est pas juste de les identifier et de dire non, mais de pouvoir contrebalancer le gain qu'on peut tirer de ce soutien-là dans le cadre de l'opération. Également, les inconvénients qui peuvent en découler. Parce que l'idée est aussi quelquefois de neutraliser, mais de s'assurer qu'en le faisant, qu'il n'y a pas de dommages collatéraux dans la protection des civils. Souvent, les interventions peuvent se passer dans des zones où il y a des femmes, des enfants, où il y a des otages aussi avec les groupes armés que les forces de défense nationale veulent neutraliser. Donc l'idée est beaucoup plus de s'assurer qu'en poursuivant un but de protection, on ne viole pas les règles du droit international.
C'est une vigilance accrue?
C'est une vigilance accrue qui permet d'utiliser le soutien comme une forme d'incitation à un meilleur comportement, à une réponse qui est conforme aux standards en matière de planification d'opérations, mais aussi une opération qui est un peu plus respectueuse des droits de l'homme et du droit international humanitaire.
Donc c'est une façon, en fait, quelque part, d'insérer ou de s'assurer que les droits de l'homme font partie intégrante des réponses des forces armées nationales. Aussi.
Tout à fait. De s'assurer que toute la panoplie de droits qui peuvent être mis en question dans le cadre d'une opération sont prises en compte dès le stade de la planification. Donc ça permet aux éléments d'une force Nations Unies qui viennent d'autres pays avec peut-être des modèles de planification beaucoup plus achevés de pouvoir conseiller et orienter un peu, essayer de voir comment limiter au maximum les dégâts qui peuvent être causés sur les civils dans le choix des cibles et des moyens à utiliser pour que les moyens à utiliser soient conformes au but poursuivi et que le but poursuivi soit également en lien avec les principes et les normes du droit international. Donc, si vous voulez faire des opérations conjointes, il y a un minimum. Peut-être que ces troupes-là, dans des pays où nous intervenons, n'ont pas le même niveau de formation, le même niveau de compréhension de ce que c'est que les principes et les normes du droit international et humanitaire. Il faut leur faire une formation pré-déploiement. Il faut les sensibiliser. Et ça, c'est un travail qui prend du temps et que les collègues font sur le terrain, soit avant le déploiement ou sur le site en cours d'opération. Il est arrivé des opérations où, dans le cadre des accords conjoints que la force a avec les FRDC, qu'il y ait des postes de commandement conjoints qui permettent de faire le suivi des opérations et s'assurer effectivement que les objectifs poursuivis sont exécutés conformément aux plans qui ont été arrêtés.
Et dans ces postes de commandement, on retrouve donc des membres du personnel
civil
qui peuvent être chargés des droits de l'homme.
Voilà, qui peuvent être chargés des droits de l'homme ou même des membres des sections des affaires civiles parce qu'ils ont les liens avec les communautés. Donc ils peuvent s'assurer que dans le cadre des opérations, que les couloirs vers lesquels des réfugiés ou des déplacés peuvent passer, sont plus ou moins protégés et pris en compte dans le cadre des opérations. Donc ce sont des formes d'intervention de travail conjoint qui sont extrêmement importantes et qui ne sont malheureusement pas très très connues. À cela s'ajoutent aussi d'autres activités conjointes qui sont faites, que ce qu'on appelle par exemple les équipes d'évaluation conjointe ou les équipes d'évaluation sécurité conjointe qui mettent en place la police, les UNPOL, les éléments de la force et les autres composantes civiles ensemble qui se déplacent quelquefois avec les autorités s'il s'agit de missions d'évaluation conjointe. Mais s'il s'agit des missions de protection, là c'est seulement les composantes de la mission qui y vont, peut-être avec OCHA ou le HCR ensemble, pour identifier tous les risques de protection qui peuvent exister dans une zone en vue de pouvoir proposer des actions rapides à mettre en place pour faire de la prévention. Et si c'est dans le temps après des attaques, de pouvoir dire concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter des réponses rapides.
Alors, vous avez mentionné le souci d'essayer de minimiser les dommages collatéraux. Vous avez mentionné les femmes, notamment. Mm-hmm. On sait qu'à l'est de la RDC, les femmes sont souvent victimes d'exactions et de violations dans les contextes d'action de groupes armés, notamment, et quelquefois des forces nationales aussi. Est-ce qu'il y a une action, une politique, une sensibilisation particulière qui est faite par rapport aux femmes ou aux enfants ou...
Tout à fait. D'ailleurs, la politique de diligence de l'ONU porte une attention particulière à la situation des femmes et des enfants, mais surtout aussi des personnes déplacées, mais également des réfugiés. L'idée est de s'assurer effectivement qu'en mettant en œuvre des opérations, on ne crée pas des situations de vulnérabilité, parce que la vulnérabilité génère de la violence. En réalité, vous accroissez la vulnérabilité et vous exposez davantage les personnes que vous étiez censé protéger à des situations de violence. C'est-à-dire que vous les exposez peut-être à de l'exploitation ou à des violences de la part des forces de sécurité qui sont censées les protéger ou simplement des groupes armés ou d'autres membres de la communauté. Donc c'est extrêmement important que des plans de contingence soient développés qui permettent de prendre en compte ces différents éléments.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très concret d'une situation dans une région ou d'une opération qui a été menée? Quelles sont les considérations ou comment est-ce qu'on pourrait justement créer une situation de vulnérabilité?
Bon, peut-être que c'est un peu délicat d'entrer dans le détail de certaines opérations pour peut-être des raisons de confidentialité. Mais ce que je devrais dire, c'est que par exemple, vous avez des provinces qui sont connues ou des zones qui sont connues en raison de l'activisme des groupes armés ou des milices. Et qui, en même temps, abritent des camps de réfugiés ou des camps de déplacés. Vous voyez ? Alors, la tentation peut être très forte de la part du groupe armé ou de la milice de faire des opérations à proximité des camps ou de venir se cacher dans un camp ou de s'attaquer à des camps. Donc, il est important, quand vous mettez en place une opération militaire, de prendre en compte l'impact que l'opération peut avoir sur la mobilité, la sécurité physique des gens qui vivent dans ces camps de déplacés ou ces camps de réfugiés. Parce qu'en réalité, ils peuvent vaquer à leurs occupations sans savoir effectivement qu'il y a une opération qui est en cours. Donc, vous créez les conditions. Si des plans de contingence ne sont pas mis en place, tout en respectant les règles de confidentialité, il y a un potentiel pour que ces personnes puissent se retrouver victimes d'embuscades ou réellement se retrouver dans le feu croisé entre les forces régulières contre, évidemment, la milice ou les groupes armés. Ou simplement que dans le temps voisin, qu'on crée les conditions pour que le groupe qui était censé être neutralisé s'attaque en guise de représailles au camp de déplacés ou au camp de réfugiés. Ça, ce sont des scénarios qu'on a vus un peu partout, qui peuvent arriver, sur lesquels il faut faire très attention. Donc c'est important que dans le cadre de la planification, ces différents éléments-là soient pris en compte pour éviter, en essayant de neutraliser un groupe, on crée un problème beaucoup plus grand. Donc, ou simplement, vous avez des groupes qui bougent avec leurs femmes et leurs enfants. Donc, quand vous voulez les attaquer, il faut vous assurer effectivement que vous attaquez peut-être les parties du groupe où les femmes et les enfants ne sont pas associés. Donc, c'est très difficile à faire, c'est extrêmement délicat et ça nécessite...
Surtout s'ils se déplacent ensemble.
Voilà, ça nécessite une préparation très très minutieuse. C'est pour ça que l'accent est mis depuis quelques années à des méthodologies de planification très rigoureuses.
Et en contact de terrain.
Voilà, à une analyse des risques. C'est pour ça que les équipes de terrain sont associées à l'analyse des risques qui permettent beaucoup plus d'identifier et d'assurer, de travailler avec efficience pour atteindre l'objectif poursuivi, sans réellement créer des dommages aux enfants et aux femmes. L'autre élément aussi qu'il faut comprendre, c'est que nous intervenons aussi dans des contextes d'opération où les groupes armés ou les milices agissent selon des lignes ethniques, en réalité. Donc vous voyez, la tendance est beaucoup plus de se retourner contre une communauté ou un groupe ethnique pour perpétrer des viols de masse.
C'est ce qu'on a vu à Yumbi, par exemple.
Voilà. À Yumbi, c'est beaucoup plus des massacres, mais par exemple, je donnerai le cas de Shabunda, du territoire de Shabunda dans le sud Kivu, où pendant très longtemps, on a beaucoup parlé de viols de masse de la part de groupes armés, les Raia Mutomboki, qui violent des hommes et des femmes, en réalité. Parce qu'ils s'adonnent à des pratiques qui relèvent du barbarisme, je devrais dire, parce que l'idée est beaucoup plus d'aller chercher dans les parties génitales des personnes, des minerais, parce que c'est une zone minière où l'activité artisanale est très, très développée. Donc ces groupes-là qui interviennent dans un no man's land où l'autorité, l'État est totalement absent, s'en prennent aux villageois, les hommes et les femmes. Ils procèdent à des viols, mais également à d'autres types de viols de l'intimité des femmes, des enfants et des hommes, soi-disant à la recherche de minerais que les personnes auraient cachés ou les soumettent à des formes de mutilation qui posent réellement problème. Alors, en guise de réponse, et c'est là que c'est intéressant, nous en avons d'ailleurs parlé hier, il y a un plan de réponse multisectoriel qui a été mis en place avec les autorités provinciales.
Il consiste en quoi?
Qui consiste à réellement faire un déploiement groupé, de s'assurer que les services de l'État se déploient, en même temps que les humanitaires, ainsi que les services de la mission, pour donner des services d'assistance sociale, psychosociale, médicale. Et la fondation Panzi du Dr Mukwege participe aussi, est au cœur du dispositif. L'idée est beaucoup plus de mettre en place des conditions d'une stabilité de la zone, c'est-à-dire en essayant de répondre aux besoins de sécurité, mais aussi aux besoins d'accès à des services de base qui sont très très importants pour la population. Les missions de sécurisation ont permis de procéder à l'arrestation récemment d'un chef milicien très très redouté. Koko Diko, qui est très connu, qui est un chef Raia Mutomboki, son groupe aurait été impliqué dans des viols de masse, qui a été pris dans le cadre des opérations qui ont été menées parallèlement dans le cadre de ce plan, et qui aujourd'hui a été arrêté et mis à la disposition des autorités judiciaires. Donc, il y a des succès. Ça, c'est, je pense, une success story. Donc, un rétablissement accompagné le retour des services de l'État, parallèlement avec la fourniture d'autres services, sécurité et surveillance globale de la situation, permettent d'atteindre certains résultats dans certaines hypothèses. Mais il faut continuer à travailler dans la durée.
Pour une éventuelle pérennisation.
C'est ça. La stabilité, c'est ça, c'est la pérennité. Donc, il faut aussi que dans les programmes de planification de l'État national, que l'action des Nations Unies qui a tendance à avoir un effet catalytique, c'est-à-dire de préparer les bases pour une durabilité, un déploiement à plus long terme dans le cadre de l'exercice des pouvoirs régaliens de l'État, que ces services-là puissent se déployer de manière à pouvoir exercer de façon durable leur rôle et leur responsabilité dans la fourniture de services, sécurité, mais également répondre aux besoins de base de la population.
Tout en tenant compte des droits de l'homme et des
exactement,
préoccupations
de l'État. Exactement, voilà, en utilisant dans le respect strict des principes et des normes des droits de l'homme. Voilà.
C'est instaurer la culture des droits de l'homme dans la construction et la pérennisation dans
de la paix dans le pays, exactement.
Et c'est ainsi que se referme cette édition d'Escale consacrée aux droits de l'homme dans les opérations de paix en RDC. Escale, le magazine hebdomadaire de Nu Info, vous a été présenté cette semaine par Christina Silvero avec la collaboration de Carlos Macias. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.